À Rencontre spirituelle, aujourd'hui, un des grands, grands saints de l'Église, malheureusement pas assez connu, une espèce d'équivalent, si vous voulez, de saint Thomas d'Aquin. Tout le monde connaît saint Thomas d'Aquin, mais les gens connaissent beaucoup moins saint Bonaventure. C'était franciscain. Vraiment une vie extraordinaire, mais d'un grand intellectuel et d'un homme très humble. Il a vécu au même moment que saint Thomas d'Aquin, qui était dominicain. Il est mort en 1274, donc bien longtemps. Ça fait déjà 700 ans et plus. D'un franciscain italien, je suis passé avec Monseigneur Chimichella, là où il a grandi, dans un endroit absolument phénoménal. C'est à visiter. C'est très, très, très beau. Oh, c'est comme dans des montagnes. Et... Bon, je n'ai pas le goût de vous parler de tout ça. C'est un grand, grand maître spirituel, saint Bonaventure. Il faut vraiment lire ses textes. J'ai eu la chance de me trouver dans un magasin d'occasion à Paris un petit livre superbe, magnifiquement édité, comme on les éditait autrefois, il y a plus de 100 ans. Et ça se vendait pour une bouchée de pain, c'est relié de façon sensationnelle. C'est intitulé « Le trésor de la vie spirituelle de saint Bonaventure ». Et à l'intérieur de ça, il y a des textes absolument superbes. Je vous en lirai tout à l'heure vers la fin. Saint Bonaventure, vous savez, qui était fils de Saint François, au fond. Il a succédé à Saint François la direction des franciscains. C'est pas le premier successeur, c'était le septième, je crois. Mais il s'est laissé brûler, lui, par l'amour, comme son maître Saint François. À la recherche de la vérité, hein. Il était, sans quitter la pauvreté puis la petitesse là, des frères mineurs, comme on les appelait, les franciscains, ben, saint Bonaventure a su, en mettant toute son intelligence au service de sa foi, c'est un professeur d'université à Paris, mais il a su reconnaître en Dieu l'unique puis la vraie lumière. Il s'est pas laissé emporter par ses connaissances, loin de là. Il est toujours resté centré sur Dieu vivant. Il n'a pas joué au bloc comme font certains, malheureusement, certains théologiens, hein, qui jouent au bloc comme des enfants. Non. Il vivait de ce dont il enseignait. Il exerçait de lourdes charges. Il a même été cardinal, évêque avant de mourir. Il est obligé d'accepter finalement. Mais il a toujours été dans la recherche de la pauvreté. Avec un amour de la vérité qui a fait de lui un très, très, très grand témoin du Christ. On peut être fier dans l'histoire du christianisme d'avoir de grands saints comme ça, et particulièrement au sein de l'Église catholique, ces franciscains exceptionnels, extraordinaires. Ils rayonnaient de douceur, d'humilité, puis de sagesse. Alors avant de commencer, on pourrait dire que si on devient de vrais amis de Dieu en écoutant saint Bonaventure, si on est désireux comme lui de chercher puis d'aimer de toutes nos forces, de notre cœur, de notre intelligence, là, d'aimer ce qu'il dit, de l'aimer lui puis d'aimer Dieu surtout, bien nous pourrons donner à nos frères, à nos sœurs, et plus particulièrement à nos pauvres enfants souvent dépouillés de toute connaissance religieuse, on pourra peut-être leur donner le témoignage d'une charité brûlante, comme la sienne, prête à tout pour rester fidèle à celui qui est le chemin, la vérité et la vie, et que nous allons fêter dans quelques jours en célébrant son 1997e anniversaire, et qui nous demande de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Qu'est-ce donc que ce saint au nom curieux, Bonaventure, un surnom au fait? C'est peut-être même le seul nom saint qui a un surnom. C'est quelqu'un, saint Bonaventure. C'est l'un des grands maîtres du Moyen-Âge finissant. Comme je vous ai dit, il était à la fin de ses jours cardinal, évêque d'Albano. Il était le huitième, pas le septième, je m'excuse, le huitième ministre général des Frères mineurs. C'est un des docteurs de l'Église. Vient de paraître chez Mediapol un livre très intéressant, « Les docteurs de l'Église ». Ah, vous les avez tous, là. les uns après les autres. Et je m'inspire justement dans ce livre pour vous parler de Saint Bonaventure. Je trouve le texte tellement intéressant. Puis, le dernier docteur de l'Église, c'est Thérèse de Lisieux. Alors, le texte de Thérèse de Lisieux n'a pas été rédigé par l'auteur du livre Jean Husneau, mais par Sœur Frédéric Oltra, une carmélite. Tous les autres sont par Jean Husneau, puis il y en a des docteurs de l'Église. Hein? Oh là là, il y en a beaucoup. Et c'est très intéressant à lire chez Médiapol. Alors donc, ce docteur de l'Église, Saint Bonaventure, est avec le dominicain Thomas d'Aquin, qui est mort en 1274, puis son confrère franciscain aussi, Don Scott, qui est mort en 1308, donc plus de une trentaine d'années plus tard. Mais il a été l'un des trois théologiens philosophes qui ont fait la gloire du XIIIe siècle, le siècle des cathédrales. Les œuvres de ce géant, Bonaventure, écrites en latin, donc c'est un auteur latin, pas un auteur italien, ni français, bien qu'il ait vécu longtemps à Paris, ont été rassemblées pour la première fois entre 1882 puis 1904, c'est curieux, hein? Seulement à ce moment-là, aux éditions Quaracci, ou Quaracchi, 10 volumes, une folio, 10 gros volumes. Il a été canonisé en 1482, assez rapidement, finalement. Puis il a été proclamé docteur de l'Église il y a déjà longtemps, en 1587. C'est un grand spirituel, c'est doublé d'un homme d'action aussi. Puis il rassemble ces aspects contraires de sa personnalité, on pourrait dire dans une synthèse personnelle très intelligente. Saint Bonaventure est né en 1221, à Bagnoria, une ville épiscopale, petite, d'Italie centrale, entre Viterbe et Orvieto. Il était le fils de Giovanni Fidanza et de Maria Ritelli. Puis au baptême, on l'a appelé Jean. Pourtant, il y a des variations, on ne sait pas trop sur son prénom. Peut-être a-t-il reçu plusieurs prénoms au baptême, puisqu'on retrouve aussi le prénom de Pierre, Pietro, d'Eustache ou de Jacques. Finalement, c'est un surnom qui va prévaloir, Bonaventure. Comment ça se fait? Selon certains, le fils de cette noble signora Maria, encore bébé, était tombé gravement malade, puis on l'aurait présenté à François d'Assise, qui avait une quarantaine d'années à ce moment-là, puis le poverello, comme on l'appelle, Saint François d'Assise, le poverello, après avoir guéri l'enfant, se serait crié « Oh, Buonaventura! Oh, l'heureux événement! » D'autres situent différemment le miracle. On prétend qu'après le décès de Saint François d'Assise en 1226, lui qui avait fondé les frères mineurs, comme vous savez, les franciscains, bien la mère du pauvre enfant était éplorée. Elle aurait recommandé son enfant à Saint François. Et puis, sans autre précision, on dit que la mère, en personne, fait mention de cette faveur insigne dans, justement, ces livres dont je viens de vous parler qui ont été édités il y a moins de 100 ans, dans le tome 8 puis dans le tome 9. Bon, je suis pas sûr de vous donner les pages. Qui a ces tomes, si ce n'est les franciscains et les grands intellectuels? Je pense pas qu'eux m'écoutent. Ce qui paraît certain, en tous les cas, c'est que l'événement va orienter ce jeune homme, ce jeune Bonaventure, vers la famille franciscaine. Et puisque des spécialistes croient devoir placer en 1238 l'entrée au noviciat de cet homme qui s'appelle Bonaventure, et qui va devenir, finalement, plus que ça, ça va être, il va incarner l'épopée franciscaine pendant 36 ans. Après une initiation religieuse, donc dans un couvent franciscain italien qui nous reste inconnu, le jeune Bonaventure est à 20 ans envoyé par ses supérieurs à Paris pour faire des études. Parce que la capitale française, Paris, où règne le futur Saint-Louis, est alors universellement reconnue, vraiment comme on disait à l'époque, la cité maîtresse où l'on cuit le pain intellectuel de la chrétienté. C'était le centre de la vie intellectuelle chrétienne, hein, à Paris, l'Université de Paris. Et c'est là que l'étudiant Bonaventure, devenu parfait trilingue, parlait l'italien, le latin, le français, il va rencontrer le professeur éminent qui va marquer toute sa vie, et c'est un Anglais, Alexandre de Halès. Un génie qui vient d'avoir 50 ans et qui vient en même temps d'entrer chez les frères mineurs, lui très réputé professeur éminent, se fait frère mineur, c'est-à-dire petit frère si vous voulez, petit frère de Saint-François, un grand professeur. Il vient aussi de fonder l'école franciscaine de Paris en étant tout nouveau franciscain. Il en est le régent et le, si vous voulez, le recteur. Et pendant 5 ans, jusqu'à sa mort en 1245, Alexandre de Halès va être le maître à penser et l'idole de ses étudiants que ses cours enthousiasment. Il a surtout 3 admirateurs, hein? Jean de La Rochelle, Eudes Rigaud et le frère Bonaventure. Le frère Bonaventure est conquis par son confrère maître instructeur, comme on dit. Taripa de Loge à son propos, il dit « Ce docteur irréfragable, c'est le titre qu'on voit surtout dans, même dans les dictionnaires au sujet d'Alexandre de Halès, le titre de docteur irréfragable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire impossible à contredire. Vous ne pouvez pas contredire Alexandre de Halès, tellement son intelligence était brillante. Donc, Bonaventure dit, ce docteur irréfragable restera mon père et mon guide. Jamais je ne m'écarterai de ses opinions. La somme théologique dont il est l'auteur demeure la Fons Doctorum, source des docteurs. Et sur ce fond de confiance, Alexandre de Halès va préparer son disciple, Bonaventure, au baccalauréat en théologie. Il va avoir son baccalauréat en théologie à 24 ans, en 1245. La formation, qui ne va pas sans toutes sortes d'épreuves et de difficultés, va se poursuivre jusqu'à son couronnement, hein, de façon absolument remarquable. Et c'est en août 1247, 2 ans plus tard, que le ministre général des franciscains, c'est-à-dire le grand chef, là, si vous voulez, le ministre général, le supérieur général, quoi, supérieur au sommet, Jean de Parme, un homme remarquable, qui va d'ailleurs être déclaré bienheureux, concède à Saint Bonaventure la faculté d'enseigner. Il n'a que 26 ans. Et tout en poursuivant ses études en sciences sacrées, eh bien, ce jeune et brillant professeur va faire merveille dans des circonstances souvent difficiles. Puis, au sein de rudes débats comme il y en avait à l'Université de Paris, on pourrait vous donner des échantillons caractéristiques. Bonaventure est tout d'abord un homme d'études. Puis, il dispense désormais des cours magistraux qui attire de nombreux auditeurs, et ce jeune maître mène de front 2 séries de leçons. D'une part, il présente l'explication du livre des sentences de Pierre Lombard, qui était le grand classique de l'époque, et de l'autre, il fait des commentaires exégétiques, c'est-à-dire des analyses de l'Écriture sainte, de la Bible, spécialement sur l'Évangile de Saint-Luc, comme le père Convert, ici, à Radio-Ville-Marie, qui a écrit un livre sur l'Évangile de Saint-Luc. Et dans le premier domaine, donc, sur le livre des sentences de Pierre Lombert, qui est le secteur théologique, je pourrais vous parler de la démarche de ce pédagogue scolastique. Je ferai ça peut-être tout à l'heure au retour. Nous allons plutôt faire une petite pause. Et nous allons écouter, interprété par l'ensemble Gilles Benchois, de l'école, des œuvres de l'école de Notre-Dame de Paris. L'école Notre-Dame de Paris, c'est de la même époque, hein, 1163-1245. Alors, nous allons entendre « O summi regis mater inclita ».
Thank you.
Cantum mi regis mater in clita, ça veut dire Homère très célèbre du roi suprême. C'est très beau ces chants qui datent déjà de si longtemps. Dieu que l'Église a produit de belles choses. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Et alors, pour parler un peu de la façon qu'il avait d'enseigner, on peut dire qu'à partir du texte du maître Pierre Lombard, là, eh bien, Saint Bonaventure dresse un plan par un premier décapage. Alors, il fait des divisions dans le texte, puis ensuite, il fait un examen des doutes méthodiques. C'était plutôt un peu nouveau. Puis, pour conclure, ce professeur propose une espèce de récapitulatif qui va devenir célèbre. On parle souvent de ça en philosophie, thèse, antithèse, synthèse. Je dis ça pour ceux qui ont fait des études dans ce sens-là. Mais c'est tout. Je ne m'étends pas plus que ça parce qu'on ne peut pas s'étendre sur ces questions-là. On peut objecter que cet intellectuel pur, dont on admire la grande souplesse comme professeur, est-ce qu'il ne va pas demeurer un peu perdu là, sur les sommets du raisonnement puis de la spéculation, bien au-dessus puis en dehors des problèmes d'actualité brillante? Est-ce que c'est un chrétien qui est engagé ou qui s'amuse justement à jouer avec des blocs, comme je vous disais tout à l'heure? On peut se détromper. Puis on constate plutôt le caractère combatif, je dirais, puis politique même, de ce théologien engagé. Il est vraiment à l'œuvre dans le milieu universitaire, de façon concrète et évangélique. On peut penser d'ailleurs à la querelle entre mendiants et séculiers qui surgit. Je vous explique ça brièvement. On entend parfois parler de ça. Donc, il est licencié en théologie en 1248. Alors, ce brillant jeune professeur qui est Saint Bonaventure se lie d'amitié avec Saint Thomas d'Aquin, qui a 4 ans de moins que lui. Et tous deux doivent sous peine de disparaître, hein, ils doivent se maintenir sur la scène universitaire en prenant la défense des ordres mendiants. Parce qu'on veut faire disparaître, au fond, les ordres mendiants de l'enseignement. C'est ce qu'on appelle la querelle entre les mendiants et les séculiers, c'est-à-dire les prêtres séculiers. Faut bien comprendre. Alors, je m'explique. Les ordres dits mendiants, qui font fureur dès la première moitié du XIIIe siècle, 1200 quelque chose, là, proclament et vivent les conseils évangéliques dans leur radicalité. Alors, à partir de cette espèce d'abandon à la Providence, dont je vous ai parlé plusieurs fois, qui est même l'objet d'un vœu, d'un engagement solennel, mais les membres de ces ordres, les dominicains, les franciscains, etc., vont devenir d'admirables prédicateurs itinérants. Et parce qu'ils vivent pauvrement, c'est-à-dire détachés des biens fonciers, en principe ils ne possèdent pas d'édifices et des choses comme ça, mais ces apôtres mobiles, ces apôtres qui puissent se déplacer facilement, vont s'orienter vite vers les villes pour évangéliser les populations les plus démunies. C'est une espèce de sorte, disons, de théologie de la libération qui sort de leur bouche. Mais pourtant, les campagnes seront également visitées, hein, à partir de couvents très humbles qui rayonnent. Puis dans ce grand mouvement, qui est tout nouveau, se situent 4 ordres principaux. Il y a les Carmes et les Augustins qui sont créés depuis longtemps, qui ont été un moment décadents, mais qui sont relancés par des réformateurs, hein. Dans l'Église, il y a toujours eu des réformateurs à l'intérieur de l'Église. C'est pas nécessaire de réformer à l'extérieur, c'est mieux à l'intérieur, hein, ça brise moins, ça brise pas. Puis les franciscains, puis les dominicains, d'autre part, qui ont été fondés au début du XIIIe siècle, c'est-à-dire en 1209, puis en 1215. En 6 ans, on avait fondé ces 2 grands ordres. Et cependant, avant que surviennent là, les rénovateurs, puis les fondateurs, il y avait toujours le clergé séculier, là. C'est-à-dire les prêtres qui ne se référaient pas à un ordre ou à une congrégation religieuse. On les appelle des prêtres séculiers, comme vous savez. Je dis ça pour les plus jeunes, il y a des gens qui sont au courant ou des gens qui ne sont pas catholiques qui m'écoutent. Alors, le clergé séculier vit au milieu des fidèles dans le cadre d'un diocèse ou un évêque, puis dans le cadre d'une paroisse. Ainsi placés puis établis, on les appelle les curés, ils jouissent du monopole de leur juridiction, puis collectent des offrandes pour vivre, comme on dit, de l'autel, il faut bien vivre. Et très vite, parce qu'ils mendient pas, eux autres, très vite, les prêtres séculiers supportent mal l'invasion de leur territoire par les franciscains et les dominicains qui prolifèrent, ça se multiplie, c'est fantastique, puis qui pratiquent, on pourrait dire, des espèces de chasses presbytérales réservées. Ils vont dans les réserves des prêtres séculiers, puis ils pratiquent quoi? Une extrême mendicité, ils quêtent partout. Ils font du travail manuel, des prédications, ils font des pénitences qui impressionnent beaucoup de gens. Et puis, ils pratiquent une espèce de libre service pastoral, on pourrait dire. Alors, les papes, qu'on appelle souvent les souverains pontifes, j'aime moins ce terme, parce que ce sont des serviteurs du Christ, hein, ils le disent eux-mêmes, les papes, enfin, disons les souverains pontifes, s'appuient volontiers sur les mendiants, sur les ordres mendiants qui leur sont parfaitement soumis et dévoués, et à partir de leur couvent, ces pauvres, dont souvent d'ailleurs les communautés sont riches, envahissent puis colonisent les facultés théologiques. Wow! Alors, dégagés de leurs soucis par l'aumône, ils travaillent gratuitement, eux. Ce sont donc des concurrents illicites des maîtres séculiers. Les maîtres séculiers n'aiment pas ça. Qui, eux, malgré leur valeur, leur connaissance, leur instruction, travaillent pour vivre, eux. Ils sont payés. Alors, entre les deux armées, disons, d'apôtres, les séculiers puis les réguliers, puis qui suivent une règle. Mais le conflit éclate et devient fort violent, et on pourrait l'examiner sur le plan universitaire devenu domaine ecclésial. Mais le débat culmine au milieu du XIIIe siècle. Alors, on va faire un résumé. En voici les protagonistes puis les phases. Bon, c'est un petit résumé que je vous fais là. À Paris, il y a un grand maître, Guillaume de Saint-Amour, qui devient le porte-drapeau de ses collègues séculiers, contre les réguliers, les dominicains, les franciscains, les autres, sont alors représentés au sein de l'Université de Paris par deux génies, comme je vous ai dit, saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure. La partie va être chaude. En 1252, donc en plein milieu du XIIIe siècle, c'est le triomphe de maître Guillaume de Saint-Amour, qui a raison dans un sens quand on y pense, qui obtient la décision suivante du conseil universitaire de la capitale. Alors, la décision... c'est « Il est interdit à tous les membres d'instituts ou ordres religieux d'occuper une chaire doctorale. » La même année, il y a une bulle, c'est-à-dire, si vous voulez, une décision du pape, qui porte le titre « Et si animarum ». Elle restreint cette bulle considérablement les privilèges des mendiants. Il y a une autre sanction, celle-là de 1254, deux ans plus tard, les maîtres mendiants, qui viennent de fomenter une grève des étudiants, sont déclarés exclus de l'université. Et sur ce, le fameux Guillaume de Saint-Amour, qui estime à tort la partie gagnée, compose et lance un violent pamphlet anti-mendiant. C'est le péril des temps nouveaux. C'est le titre. Alors, saint Bonaventure, qui est alors âgé de 33 ans, puis en pleine possession de son génie, réplique par un traité apologétique qui s'appelle « La pauvreté du Christ ». Et les arguments avancés, finalement, convainquent tellement que le nouveau pape Alexandre IV non seulement condamne le libelle de Guillaume de Saint-Amour, mais ordonne d'en brûler tous les exemplaires en 1256. Et par réaction, pour ainsi dire, patriotique, parce qu'ils sont soucieux de leurs privilèges imprescriptibles, le conseil universitaire parisien des séculiers, là, refuse pourtant, avec obstination, de réintégrer dans son sein, les deux champions des mendiants, saint Thomas et saint Bonaventure. Mais le pape use alors de sa suprême autorité apostolique. Et par ses ordres, bien, saint Thomas et saint Bonaventure sont tous deux, le même jour, le 23 octobre 1257, proclamés docteurs déjà de leur vivant, si on peut dire, et officiellement réintégrés dans les facultés pontificales. C'est pas vraiment docteur de l'Église, c'est docteur dans le sens du degré. Hein. Par cette date, depuis un mois déjà, saint Bonaventure, qu'on appelle souvent le docteur séraphique, exerce les hautes fonctions de supérieur général franciscain. Il est chef de tous les franciscains. Alors comment, en cette direction d'un ordre si important, ils sont 20 000 religieux, comment lui, brillant intellectuel, va-t-il se comporter? Il sera 17 ans supérieur général. Alors au début de février 1257, Les événements se précipitent au sein de la famille franciscaine. Ministre général depuis 10 ans, le grand théologien, bienheureux Jean de Parme, tout juste quinquagénaire à l'époque, est accusé par certains de ses confrères de favoritisme et honté envers les spirituels qui sont partisans d'une stricte observance. De plus, il y a des esprits pointilleux là, parmi les inférieurs qui avancent puis qui répandent. Une accusation plus grave encore, ils disent « Notre ministre général, Jean de Parme, reprend à son compte les erreurs du cistercien italien Joachim de Flore, qui est mort en 1201, lui. Des rêveries apocalyptiques puis du faux mysticisme. Faudrait peut-être que je vous en parle un jour. » En but à des critiques qui le blessent, là, ce pauvre ministre général Jean de Parme, qui est un saint homme, il n'insiste pas, c'est un conciliateur né. Alors il convoque à Rome un chapitre général extraordinaire, puis à cette assemblée, il fait quelque chose de remarquable. Il fait, entre autres, la déclaration suivante, « Parmi vous, me voilà discuté, eh bien je démissionne donc, pour le bien de notre ordre, et pour me succéder, alors portez vos suffrages sur le frère Bonaventure, il fera mieux que moi. » Quelle humilité extraordinaire! Alors écoutons encore de l'ensemble Gilles Binchois, comme Notre-Dame de Paris, musique de l'époque, Ave Maria fons laetitiae. Grand saint, je vous assure, personnage merveilleux d'une grande humilité. Alors là, il est nommé, pour ainsi dire, par Jean de Parme, le supérieur général des franciscains, le maître général, pour le remplacer. Alors les franciscains, lors de cette assemblée générale, écoutent avec émotion ce grand franciscain si sage et en même temps si humble qu'est Jean de Parme, le bienheureux Jean de Parme. Saint Bonaventure, le frère Bonaventure, est élu triomphalement. Il apprend la nouvelle à Paris. Il accepte avec réticence. Mais rapidement, une fois la charge assumée, en 1257, le 23 avril, ce jeune chef de 36 ans seulement, adresse à l'ordre entier des dizaines de milliers de franciscains sa première lettre pastorale. De ce document, voici deux paragraphes typiques. C'est donc le premier message de ce grand chef, si on peut dire. À l'heure même où les périls, dit-il, les périls des temps nous accablent, bon, vu que ça ressemble toujours au temps d'aujourd'hui, nous sommes presque toujours dans notre histoire humaine, dans des moments de péril, donc peut-être qu'il faudrait cesser de trop s'en faire. À l'heure même où les périls des temps nous accablent, à l'heure où les consciences se trouvent blessées, et qu'éclatent les scandales des gens du monde auxquels notre ordre devrait apparaître comme un miroir de sainteté, il se trouve au contraire pris en aversion, voire méprisé dans diverses parties du monde. Ce qui me paraît devoir être corrigé de l'avis de mes conseillers, je le proclame. Puis écoutez bien ça. Je ne veux pas garder le silence. Je ne veux pas non plus tout dire. Structurer des règles nouvelles, nouer des nouveaux liens, puis imposer aux autres de trop lourds fardeaux. J'entends seulement annoncer la vérité, car on ne doit jamais la dissimuler. Je répète. J'entends seulement annoncer la vérité, car on ne doit jamais la dissimuler. Alors, c'est sur cette lancée du respect du vrai qui doit conduire au Christ, lui qui est la vérité incarnée, que ce nouveau guide spirituel des franciscains saints Bonaventure va œuvrer avec ténacité puis persévérance. Où le chemin va être long. Voici les moments dominants au cours de ces assises plénières de l'ordre entier, qui ont été convoquées et réunies en moyenne tous les 3 ans. Je vais vous parler de ça tous les 3 ans, des petits morceaux, juste pour vous donner une idée de ce qu'il va faire. Pardon, chacune de ces rencontres franciscaines marque un engagement à la fois personnel puis collégial des franciscains. Avec ses frères, le Saint Bonaventure s'oriente, puis se réoriente, puis s'engage, puis progresse. Il lâche pas, il mène son ordre. Toujours vers le bien, vers le mieux, vers le Christ. Son œuvre écrite s'inscrit dans la ligne et le rayonnement de ses décisions. Décisions qui sont prises entre frères, inter fratres. Et voici un essai d'évocation de cette vie intellectuelle et apostolique, unifiée. Autour donc de 6 dates. La première date, c'est à Narbonne, en 1260. Donc le supérieur général Saint Bonaventure présente aux siens son tout récent ouvrage « Itinéraire de l'Esprit vers Dieu ». Quel bel ouvrage que j'ai lu ces jours-ci. Puis c'est un beau titre en plus de ça. « Itinéraire de l'Esprit vers Dieu ». Une synthèse de notre vie. Nous sommes tous dans un itinéraire de notre esprit vers Dieu. De ce texte composé sur la montagne où le Poverello, Saint-François d'Assise, a reçu les stigmates, sur l'Alverne, voici un extrait qui situe le pèlerinage et la prière du mystique. Je lis le texte de Saint Bonaventure. À l'exemple de Saint François, je me trouvais tout haletant. Moi, pauvre pécheur, indigne successeur de notre bienheureux Père, mais depuis son trépas, 7e ministre général de ses frères. Alors, en ce 33e anniversaire de la mort de notre fondateur, une inspiration m'a poussé sur le mont Alverne, solitude apaisante, avec le désir d'y trouver la paix de l'esprit. En cet endroit, tandis que je méditais sur les élévations de l'âme vers Dieu, je me remémorais, entre autres merveilles, le miracle accordé en ce lieu à Saint François en personne, le privilégié, c'est-à-dire, a vu un séraphin en forme de croix. Il m'a semblé que cette apparition représentait l'extase du bienheureux Père et indiquait l'itinéraire à suivre pour y parvenir. Alors, les membres de l'Assemblée, les capitulaires, sont extrêmement attentifs à ce retour aux sources. Il faut toujours retourner aux sources si on veut vraiment vivre. Que les ordres retournent aux sources, que les congrégations retournent aux sources tout en se modernisant, et que nous, chrétiens, nous soyons des chrétiens de la fin de ce millénaire, mais puisant nos sources dans les évangiles. Alors, les capitulaires, les franciscains, rédigent de nouvelles constitutions pour l'ordre entier. Et unanimement, bien, ils chargent Saint Bonaventure de composer une nouvelle biographie franciscaine. Et cette dernière, qu'on appelle la Legenda Major, la grande légende, va analyser en profondeur l'âme du petit pauvre Saint François d'Assise. Et ensemble, on pourrait peut-être lire, ruminer un passage absolument merveilleux de profondeur spirituelle. On pourrait intituler ça « C'est le Christ qui vit en François ». Saint Bonaventure, voici, désormais crucifié avec le Christ, tant dans sa chair que dans son âme, François brûlait, comme Jésus, d'un amour séraphique pour Dieu. Et comme Jésus, il avait soif du salut des âmes. Il avait soif du salut des âmes, c'est-à-dire de leur libération. Que de malheur faudrait soulager. Parle pas rien des malheurs du corps et de la pauvreté, malheur intérieur. Je continue. C'est pourquoi il faisait transporter son corps à demi-mort à travers villes et bourgades, pour y inviter les fidèles à porter la croix du Christ. Il disait à ses frères, « Commençons à servir le Seigneur, car jusqu'ici nous n'avons pas fait grand-chose. » Et son épuisement corporel n'enlevait nullement à son esprit vaillance, courage, espérance de vaincre l'ennemi des âmes, vaincre l'ennemi des âmes. Passons maintenant 3 ans plus tard à Pise, en 1263, en cette grande ville méditerranéenne, où il y a toute la tour penchée de Pise, baptistère magnifique, cette basilique extraordinaire, s'est arrosée par l'Arno, en Toscane. Les frères se trouvent de nouveau rassemblés pour opérer un regroupement des provinces de l'ordre, puis on y discute aussi des rubriques du bréviaire. Bon. Pour couronner le tout, Saint Bonaventure pratique et recommande une fervente dévotion mariale, et conformément à ce but-là, il précise aussi ce qui suit. Dans vos sermons, présentez et invoquez toujours, sinon souvent, la Vierge Marie. Dans les annales franciscaines, il ajoute, c'est à Pise, en 1263, que Saint Bonaventure, second fondateur de notre ordre, institue la fête de la conception mariale. Saviez-vous ça? Alors, encore 3 ans plus tard, cette fois-ci, c'est à Paris, en 1266, à la Pentecôte, s'ouvre un nouveau colloque franciscain au sommet. Il se déroule donc dans la capitale française où Louis IX, le grand bâtisseur de multiples églises, de monastères, de couvents, etc. C'est lui qui règne. Et au sein de ces réformes, les frères mineurs, les franciscains, vaquent à leurs affaires. En l'occurrence, institution de débat public entre étudiants de l'ordre. C'est assez surprenant, hein? Institution de débat public entre les étudiants de l'ordre. Et de ce fait, la vie intellectuelle et spirituelle s'accentue par des échanges qui sont largement ouverts aux laïcs. Oui, ouverts aux laïcs. Intéressant, 1266. Toujours 3 ans plus tard, à Assise maintenant, au cœur, là, en 1269, la famille spirituelle du Poverello, Saint-François d'Assise, marque encore sa dévotion mariale par une décision capitulaire, comme on dit, décision des dirigeants, au rayonnement ecclésial, une décision au rayonnement ecclésial. Ça va couvrir toute l'Église. Ils disent, tous les samedis, on célébrera en l'honneur de la très sainte Vierge une messe solennelle. Quand je vais à la messe, à la cathédrale le samedi matin, c'est toujours la messe de la Sainte Vierge. La même chose chez Jésus, la messe de la Sainte Vierge. Ça dure encore. Bonaventure y reprend et commente par des frères son ouvrage, publié 6 ans auparavant, où se trouve tant exaltée la Mère de Dieu. Et en voici un extrait, c'est Marie au pied de la croix. Voyez ce qu'ajoutait au pied de Jésus la peine de sa mère. Il la voyait. Cœur tout broyé, mains serrées par la douleur, les yeux ruisselants de larmes, visage crispé, voix brisée, mais tout le corps dressé, viril et debout, c'est curieux, viril et debout, stabat mater, auprès de son gibet. Je la devine, la tête voilée sans doute, tant sa modestie demeurait virginale, tant sa douleur passait toute mesure. Écoutons les lamentations de Marie, la Vierge Mère. Contemplons cette poignante douleur. Nous le verrons, il n'est pas de douleur pareille à la sienne. Si ce n'est la douleur de ce fils, d'après laquelle la sienne se modèle. En effet, aux surprises à peine croyables, c'est une vraie compassion qui l'étreint et que les mots d'une langue humaine ne sauraient exprimer. Et faisant rejaillir sur elle les douleurs, les blessures, les outrages de son fils, elle les subissait dans sa propre personne. Près du Christ martyr, elle partageait son martyr. Et la voilà donc blessée par sa blessure, crucifiée parce qu'il est crucifié, percée du même glaive. Son âme fut transpercée par le glaive de la passion du Christ. Allons encore 3 ans plus tard, cette fois à Pise, on est de retour à Pise en 1272, l'année précédente en 1271, après 34 mois de débats, le plus long conclave de l'histoire, c'est ce que c'est qu'un conclave quand les cardinaux se réunissent pour élire le pape. Eh bien, on a élu un nouveau pape après 34 mois de débat. Aujourd'hui, ça prend 2 jours. On a élu Grégoire X. Grégoire X doit son élection à l'influence bénéfique de Saint Bonaventure. Et dès qu'il exerce le pouvoir effectif, ce nouveau pape dresse, son éminence grise, Saint Bonaventure, par une demande vigoureuse. Il lui dit, donnez-moi 4 frères mineurs comme ambassadeurs en Orient,
pour y négocier l'union avec les Grecs, c'est-à-dire avec les orthodoxes. Et pour cette mission, plutôt extrêmement difficile, parce qu'ils sont séparés depuis 100 ou 200 ans, pour cette mission délicate, le grand chef franciscain puis les capitulants le désignent les frères Jérôme d'Ascoli, Raymond Béranger, Bonagrazia de Sancto Ioannin Persiceto et Bonaventure de Mugello. C'est un autre Bonaventure. Et l'année suivante, en présence des docteurs de l'Université de Paris, Saint Bonaventure brille par sa fameuse prédication dont voici en une phrase admirable et résumé dogmatique au sujet de l'union. La clé de toute connaissance exhaustive, c'est la doctrine du Verbe incréé par qui tout a été fait, du Verbe incarné par qui tout a été réparé, du Verbe inspiré par qui tout a été révélé. Puisque c'est Noël bientôt, je vous répète ce beau texte sur Jésus-Christ. Écoutez bien, c'est pas facile, mais c'est beau. La clé de toute connaissance exhaustive, c'est de toute connaissance complète, disons. Toute connaissance chrétienne complète. C'est la doctrine du Verbe incréé, le Verbe qui n'a pas été créé, Verbe Dieu, quoi. Par qui tout a été fait. Du Verbe incarné, monsieur, vous comprenez ça, c'est le Verbe qui s'incarne dans le sein de Marie, qui naît de la Vierge Marie il y a 1997 ans. Donc, c'est la doctrine du Verbe incarné par qui tout a été réparé. Il a réparé par l'amour, l'amour. Il a couvert la planète, le monde de son amour. C'est la doctrine du Verbe inspiré par qui tout a été révélé. Tout a été révélé quand il nous a révélé le but de notre vie et l'amour de notre Père, la Trinité. Il a révélé l'Eucharistie. Il a révélé tant de belles choses qu'on n'en finit plus de lire l'Évangile et de s'émouvoir. Alors, 2 ans plus tard, c'est à Lyon maintenant qu'on se retrouve, dans le sud de la France, en 1274, et c'est la démission, là, de Saint Bonaventure, parce qu'en 2 années, il produit bien des événements, de 1272 à 1274, la série française des prédications de Saint Bonaventure se trouve finalement interrompu. En effet, le 3 juin 1273, il est nommé cardinal-évêque d'Albano. Il est appelé à Rome, puis il accompagne le pape Grégoire X, qui l'aime beaucoup, au concile de Lyon. Un grand concile important. Et le 20 mai 1274, le ministre général, donc le supérieur général, devenu négociateur officiel auprès des Grecs orthodoxes, se démet de sa charge franciscaine et fait élire pour lui succéder à la tête de l'ordre des franciscains son confrère et ami, le frère Jérôme d'Ascoli. Alors les 2 derniers mois de vie de Saint Bonaventure sont entièrement consacrés au second concile de Lyon. Connaissez-vous ce concile important? C'est la quatorzième assemblée générale chrétienne de l'histoire. Ça se déroule dans l'ancienne capitale des Gaules, donc à Lyon. Il y a 500 évêques qui sont réunis pour sceller la réconciliation entre Rome et Constantinople. Et grâce à la diplomatie souple et ferme qui est déployée par le cardinal d'Albano Saint Bonaventure, imaginez que l'acte d'union, l'Église orthodoxe et l'Église catholique sont séparés depuis l'an 1054, eh bien, l'acte d'union retrouvé se trouve solennellement accompli au cours de la 4e session. Et là, grande date importante, le 28 juin 1274. Nous devrions donc prier ce jour du 28 juin chaque année. Les ambassadeurs grecs orthodoxes fournissent leur adhésion totale au Saint-Siège, comme avant le schisme est-il dit. Oh. Et là, les Grecs ratifient le fameux filioque, c'est-à-dire que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, comme on dit, nous, dans notre « Je crois en Dieu ». Eux, ils avaient repoussé ça 100 ans plus tôt, une cérémonie symbolique émouvante, dans la cathédrale de Lyon, la cathédrale Saint-Jean, qui est toujours là. Et on chante le credo en latin et en grec. Mais malheureusement, cette union, sera de nouveau dans la suite brisée, au bout de quelques années à peine. Et la question du filioque, c'est une question, me semble, banale. est une des celles qui continue à séparer les catholiques des orthodoxes. Pourtant très proches par ailleurs, nous sommes des frères et des sœurs. Grand Dieu, comment se fait-il que nous soyons séparés? Et les orthodoxes trouvent que la formule filioque tend à diminuer l'importance du Saint-Esprit qui paraît ainsi n'être pas considéré comme tout à fait égal au Fils. Bon, peut-être. Mais malheureusement aussi, il y a deux deuils successifs qui éprouvent l'Église. Saint Thomas d'Aquin est mort immédiatement avant l'ouverture de l'Assemblée. 15 jours après la clôture du Concile, c'est Saint Bonaventure, âgé de 53 ans, qui remet son âme à Dieu, comme un saint lui aussi. Et le dominicain Saint-Pierre de Tarentaise. Oh mon Dieu, je vous avais parlé de lui au tout début de mes émissions, le 8 mai. J'avais commencé le 1er mai. Le 8 mai 1995, je vous avais fait une émission sur Saint-Pierre de Tarentaise, ce dominicain extraordinaire, évêque d'Ostie en Italie. Il a prononcé, lui, une touchante oraison funèbre, un dominicain. « Oui, Jonathan Bonaventure, notre frère, nous te pleurons », avait-il dit. Et en somme, il faut retenir surtout de Saint Bonaventure qu'il était très brillant et très humble. Et tel apparaît celui qu'on appelle très souvent le docteur séraphique. Intellectuel de grande classe, ami des plus modestes. Une belle âme candide qui sait admirablement écouter et secourir les plus pauvres. Pour marquer cette rare synthèse, si pleinement réussie en lui, il y a une anecdote qu'on raconte. C'est dans la chronique des 24 généraux, c'est Égide, un petit frère convert, un frère laid, comme on dit, un frère, quoi. Il dit, « Quand je songe aux lumières que les docteurs tels que toi reçoivent du ciel, je m'interroge, comment un ignorant tel que moi peut-il faire son salut? » Et Saint Bonaventure lui dit, « Pour être sauvé, il suffit d'aimer Dieu. » Alors Égide, ça veut dire Gilles, au fond, hein. Alors Gilles dit, « Me diras-tu qu'un illettré peut aimer le Seigneur plus qu'un grand savant? » Et Bonaventure lui dit, « Bien sûr, frère Égide, non seulement autant, mais bien davantage. On voit des vieilles femmes toutes simples qui, sur ce point capital, surpassent les plus grands théologiens. » Que c'est beau. En pénétré de cette simplicité évangélique vécue, Saint Bonaventure, qui était un philosophe averti, il explore Platon et Aristote, et pourtant, semblable à son père spirituel François d'Assise, cet illuminé mystique qui est Saint Bonaventure ne cherche puis ne recherche que Jésus. C'est ce que vient de nous rappeler à la fin du synode, ces jours-ci, le cardinal Turcotte. Rechercher Jésus! Sous sa plume et par son enseignement, l'augustinisme trouve son expression scolastique la plus réussie. À la fois maître doctrinal averti, remarquable animateur de son ordre, les franciscains, Saint Bonaventure, auditeur complaisant du dernier des frères converts, Égide, dialogue paisiblement avec les papes aussi. Et ainsi Alexandre IV, Urbain IV l'admire. Clément IV lui propose vainement le siège épiscopal d'York en Angleterre. Grégoire X lui manifeste une confiance illimitée, comme vous avez vu. Cette faveur rend plus humble encore celui qui déclare « Mon intention n'est pas de contredire les opinions nouvelles, mais de reproduire les plus communes et les plus autorisées. Et les plus grands ont puisé sans vergogne dans les écrits de ce profond penseur, même Pascal, même Emmanuel Kant. Un tel génie aurait-il sacrifié sa carrière professorale aux activités de l'apôtre? Pas du tout, on l'a vu. Au milieu même de ses responsabilités de pasteur, il a élaboré une philosophie de l'action, une philosophie engagée. Et je vous ai promis de vous lire dans mon beau petit livre précieux que j'ai eu la chance de trouver. On fait des découvertes quand on fouille, hein? J'avais trouvé ça à Paris. Alors, ces trésors de la vie spirituelle, parus en 1880, des belles tranches de récits superbes. Il écrit, « Je n'ai point su, je n'ai point senti combien vos saintes paroles sont douces à vos élus, combien vos conseils sont pleins de suavité pour vos amis, combien vos commandements paraissent légers à l'ardeur de vos saints. Ô Jésus, source de sagesse, auteur de la science, conseiller des saintes pensées, faites-moi au moins maintenant entendre votre voix, que son murmure vienne frapper mon oreille. Oui, l'amour de ce monde est une vraie séparation d'avec vous. Vous étiez toujours près de moi. J'ai entendu souvent votre voix. J'ai senti souvent vos inspirations salutaires, mais je n'ai point consenti à les suivre. Je vous répondais comme saint Augustin, « Seigneur, attendez-moi un peu, prenez un peu patience, encore un instant, et je m'éloignerai de la vanité. Bon, j'abandonnerai toutes les frivolités de ce monde. » Mais hélas, cet instant n'avait point de terme, ce moment se prolongeait toujours. « Ô Jésus, source de toute douceur et de toute suavité, pardonnez-moi d'avoir compris si tard. Combien de délices, combien d'innocence, combien de félicité votre sagesse éternelle, votre lumière divine, votre miséricorde et votre amour apportent à l'âme en se faisant sentir à sa raison et en pénétrant sa volonté. » Que c'est beau, des textes écrits il y a si longtemps. On dirait qu'ils ont été écrits ce matin, ce soir.